Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous venons de lire dans l'Épître de Saint-Pierre, « Le Christ a souffert pour nous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Jésus veut qu'on suive ses traces, que nous aussi, nous passions par où il est passé. Or, Jésus a été persécuté, il a été crucifié, il a souffert l'opprobre. Le chrétien, par conséquent, doit lui aussi subir la persécution. Et saint Paul le dit expressément dans la deuxième épître à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre saintement dans le Christ Jésus subiront persécution. » Vous noterez que la règle ainsi énoncée ne souffre aucune exception. L'apôtre dit « tous ». Il ne parle pas au conditionnel, il parle au futur, pour marquer qu'il s'agit non pas d'une hypothèse possible, mais d'une chose certaine. Tous ceux qui veulent vivre saintement dans le Christ subiront persécution. Il faut graver cet enseignement au plus profond de nous-mêmes, afin qu'au jour où l'épreuve se présente, nous ne soyons pas surpris. Car l'épreuve fait partie de la vie chrétienne, partie intégrante. Est-ce à dire que la persécution est un bien en soi? À ce compte, les malfaiteurs poursuivis par la police, les hérétiques dénoncés par l'Église, les damnés tourmentés par les démons auraient un sort enviable, car ils sont chacun à sa manière des persécutés. Saint Augustin a écrit « Si les supplices faisaient les martyrs, toutes les prisons en regorgeraient, toutes les chaînes serviraient à en produire. » Tous ceux qui tombent sous le glaive mériteraient la couronne. Alors il continue, il importe donc de connaître le motif pour lequel on subit ces supplices. Aussi que personne ne dise, je souffre, donc je suis injuste. Celui qui a souffert le premier, notre Seigneur Jésus-Christ, a souffert pour la justice. Et c'est pourquoi, à la béatitude des persécutés, il a ajouté cette condition essentielle, « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Pour que la persécution nous soit profitable, il faut donc la souffrir pour la justice. Mais que signifie ce « pour la justice » ? On peut l'entendre de deux manières, selon que la préposition « pour » désigne, comme disent les philosophes, soit la cause efficiente, soit la cause finale. Subir la persécution pour la justice, cela veut dire à cause de la justice ou bien en vue de la justice. Si l'on comprend à cause de la justice et que l'on prend le mot justice dans son sens ordinaire, alors la proposition veut dire il est impossible de s'appliquer à mener une vie juste sans se heurter à la persécution. Et c'est là un fait universel dont l'histoire de l'humanité offre de très nombreux exemples. Ainsi, avant même l'apparition du christianisme, le païen Socrate, tout le monde connaît Socrate, fut-il condamné à boire la ciguë pour avoir résolument défendu la justice contre ses accusateurs? À plus forte raison, donc, cette règle générale s'applique-t-elle aux chrétiens qui cherchent à vivre saintement? Pour le monde ennemi de Jésus-Christ, le chrétien est comme un reproche vivant. En effet, la raison de cette hostilité se trouve dans la haine que le diable porte au Christ et à tous ceux qui le servent. Ce sont les démons, dit saint Justin, qui excitent cette hostilité contre quiconque cherche d'une façon ou d'une autre, à croire selon le Verbe et à fuir le mal. Le monde est un champ de bataille où la lumière combat contre les ténèbres, le bien contre le mal. Quiconque s'efforce de propager la lumière et de faire le bien travaille au profit de celui qui est la lumière du monde, le juste par excellence. Le soleil de justice, comme dit la Sainte Écriture, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et dès lors, un tel homme devient, dans la mesure même de ses efforts, l'ennemi du démon et l'objet de ses attaques. C'est obligatoire. Et si on ouvre notre Bible, on peut voir que c'est ainsi qu'Abel fut tué par Caïn, pour avoir offert à Dieu des sacrifices sans tâche. Isaac fut persécuté par Ismaël, Jacob par Ésaü, Joseph par ses frères, David par Saül, le peuple élu par les Égyptiens et le sauveur du monde par les Juifs. Un jour ne me suffirait pas, a écrit saint Jérôme, si je voulais énumérer de combien de manières les impies prévalent ici-bas sur les justes et les oppriment. Et sous la loi nouvelle, la même règle se manifeste de façon constante. L'histoire de l'Église se confond avec celle de ses persécutions. Il n'y a pas un siècle où il n'y ait pas eu de persécution. À peine les apôtres eurent-ils commencé de prêcher le nom de Jésus que la fureur de la synagogue et des empereurs païens se déchaîna contre eux. Pendant 4 siècles, le sang des martyrs coula à flots. Et après la persécution sanglante, ce furent les grandes hérésies. Saint Athanase, saint Hilaire de Poitiers, saint Basile, saint Cyrille d'Alexandrie, saint Augustin et la plupart des grands docteurs des premiers siècles durent passer par toutes sortes de tribulations et d'angoisses pour défendre la vérité contre les Ariens, les Nestoriens, les Monophysites, les Pélagiens, les Iconoclastes, etc. etc. Et cela a continué ensuite avec les cathares, les protestants, les libéraux. Ça n'a jamais cessé. Ça continue d'exister aujourd'hui. Invariablement, au cours des âges, tous ceux qui, sous l'action de l'Esprit-Saint, ont entrepris d'extirper une erreur, d'arrêter un abus, d'opérer une réforme, ont vu aussitôt la tempête se soulever contre eux. Partout et toujours, c'est vérifier cette parole de notre Seigneur, « Le serviteur n'est pas au-dessus du maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » J'ai aimé la justice et j'ai haï l'iniquité. C'est ce que disait saint Grégoire VII, le pape saint Grégoire VII, sur son lit de mort. Et il ajoutait « C'est pour cela que je meurs en exil. » Oui, c'est pour cela. On ne peut aimer la justice, on ne peut pas lutter contre l'iniquité sans s'offrir au coup de la persécution. Et cette persécution vient normalement des ennemis de la vérité. Mais elle vient aussi, parfois, et ça n'est que plus pénible, des amis, des proches, des personnes bien intentionnées, ou même de l'autorité. On le voit aujourd'hui. Mais souffrir persécution pour la justice peut signifier également souffrir persécution en vue de la justice. Et le mot justice reçoit alors le sens de justification, de sanctification. Il désigne en ce cas la justice infusée à l'homme par Dieu, la rénovation, la sanctification de l'homme intérieur, que Dieu d'injuste rend juste et d'ennemi rend ami. Et en ce sens, l'expression « souffrir persécution pour la justice » veut dire qu'il faut supporter patiemment les persécutions si l'on veut obtenir sa justification devant Dieu, si l'on veut devenir juste, saint, et pour qu'on puisse le devenir. La persécution est nécessaire. Et en effet, l'épreuve de la persécution est le creuset où l'âme se purifie, où l'âme se dépouille des défauts qui la défigurent, où elle s'orne de vertus pour plaire à son Seigneur. Bienheureux, dit saint Jacques dans son épître, l'homme qui supporte la tentation, parce que lorsqu'il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. On peut prendre une image. De même qu'un morceau de cire ne peut perdre l'empreinte du cachet qu'il porte et en recevoir une nouvelle sans être chauffé au feu, de même l'âme ne peut abandonner les marques du monde et du démon dont elle est souillée et se renouveler à l'image de Dieu sans passer par l'épreuve. Parce que tu étais juste, et on pourrait ajouter, et pour que tu le deviennes davantage, il était nécessaire que Dieu t'éprouvât. C'est la parole de l'ange à Tobie l'Ancien, dans le livre de Tobie. Mais l'épreuve est amère, il faut bien l'avouer. Elle fait violence à la nature. Lorsqu'elle s'abat sur nous, nous gémissons et nous sommes tentés d'accuser Dieu de dureté. Nous le supplions d'éloigner de nous cette souffrance. Et nous oublions, dit saint Jérôme, que l'or reçoit sa forme dans le feu et que les trois enfants sortirent de la fournaise plus purs qu'ils n'y étaient entrés. Les trois enfants, c'est dans le livre de Daniel. Ils avaient été condamnés à brûler vifs dans une fournaise et ils en sont sortis indemnes, non seulement indemnes, mais plus purs qu'ils n'y étaient entrés. Il faut donc supporter la persécution avec patience, sans faiblir. Évidemment, il ne s'agit pas de la supporter dans une indifférence absolue, avec cet orgueilleux mépris de la douleur auquel s'exerçaient les stoïciens. Le chrétien n'est pas un stoïcien. Qui oserait dire qu'il est défendu de sentir tout le poids de l'épreuve et de s'en plaindre doucement à Dieu quand on voit le Sauveur lui-même supplier devant l'amertume de sa passion « Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi ». Mais ce gémissement tout à fait légitime, dont les saints nous ont donné l'exemple, ne doit pas dégénérer en murmure. Il faut reconnaître dans la main qui nous fait souffrir celle du médecin divin, qui cherche notre guérison et non pas celle d'un ennemi qui veut notre mort. Il en va de l'âme soumise à l'épreuve comme de Saint Jean l'évangéliste, lorsqu'il fut plongé dans l'huile bouillante à Rome, à la porte latine. Il sortit de là, dit la liturgie, purior et vegetior, plus pur et plus vigoureux. Et bien de même, dans la persécution, l'âme ne subit aucun détriment véritable, si elle supporte cette persécution vraiment chrétiennement. Elle sort de là plus pure et plus vigoureuse. Et elle y trouve l'occasion de prouver à Dieu que son amour est véritable. Alors, nous devons réagir comme saint Pierre nous invite à le faire dans l'épître que nous avons lue. Très cher, le Christ a souffert pour nous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui, outragé, ne rendait pas l'outrage. Lui qui, maltraité, ne faisait point de menaces, mais se livrait à celui qui le jugeait injustement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. À notre tour, nous devons supporter les persécutions en vue de la justice, pour devenir des saints. À cette doctrine si belle, si profonde, le monde oppose une objection que tous nous avons certainement déjà entendue, une objection qui circule particulièrement dans les milieux néo-païens. La voici. En enseignant la résignation dans l'épreuve et l'acceptation des tribulations, le christianisme exercerait une action délétère sur les âmes. Il rendrait les âmes timides, soumises, incapables de réagir. Il les tiendrait enchaînées, sans personnalité, dans la pusillanimité. Le chrétien, au fond, ne serait qu'un vaincu qui ne saurait que tendre l'autre joue quand il est frappé. Le christianisme serait une religion de persécutés, de pleurnichards, d'esclaves, cultivant chez ses adeptes une mentalité de défaite et d'échec permanent. L'histoire du christianisme et la vie des saints, pour qui les connaît un tant soit peu, montrent l'inanité de cette objection, évidemment. Sans entrer dans le détail, on peut répondre deux choses à ceux qui tiennent ces sophismes. La première, c'est que la résignation que le christianisme recommande à ses fidèles ne vaut que lorsqu'il s'agit d'épreuves ou de persécutions qui les affectent eux-mêmes dans leur personne. Mais dès qu'il s'agit de l'honneur de Dieu ou de la Sainte Église, des droits de la vérité, de la foi, du salut des âmes, alors la religion nous fait au contraire une obligation de nous opposer et de lutter avec toute l'énergie possible. Dieu premier servi. On pourrait citer bien des exemples. Contentons-nous de celui de Sainte Jeanne d'Arc que nous allons fêter dans un mois. Le contraste est frappant dans sa vie entre l'attitude qu'elle a lorsqu'il s'agit des persécutions et des injustices dont elle est personnellement victime et lorsqu'il s'agit au contraire de sa mission. Dans le premier cas, comme le lui ont conseillé ses voix, elle prend tout en gré, l'expression est d'elle-même. Elle ne se chaille pas, c'est-à-dire elle ne s'afflige pas, ni de son procès, ni même de son martyre, qui pourtant fut un horrible supplice, bien propre à effrayer une enfant de 19 ans. En revanche, lorsqu'il s'agit de sa mission, alors elle est intrépide. Elle agit avec une autorité que personne n'ose lui contester. Elle revient sans cesse à la charge. Elle besogne, elle bataille, comme elle dit. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Que ce soit contre les Anglais qu'il faut bouter hors de France ou contre les hésitants et les mauvais conseillers du roi qui ne parlent que de trêve avec l'ennemi et compromettent ainsi le bon plaisir du roi du ciel. Elle tient dans ces cas-là un langage guerrier extrêmement ferme. Par exemple, elle crie aux soldats d'entrer hardiment dans les rangs ennemis, car Dieu les leur a livrés. Elle veut avoir une bonne épée pour, dit-elle, donner de bonnes buffes et de bons torchons. C'est la langue imagée de l'époque, c'est-à-dire de bons coups, bien efficaces. Et elle répond hardiment à ses juges et se fait même leur accusatrice lorsqu'ils s'opposent au commandement de ses voies. Vous voyez, Sainte Jeanne d'Arc n'est pas une timorée ni une défaitiste. Et puis la deuxième chose que l'on doit répondre à ceux qui objectent que le christianisme amollit les âmes en leur enseignant le support et la résignation dans les épreuves, c'est que ce support, au contraire, demande une très grande force, une force bien plus grande que celle qui consiste à entreprendre des actions d'éclat. C'est l'enseignement de toute la tradition. C'est aussi ce que l'expérience nous fait voir. Supporter avec patience une longue épreuve, résister aux injures sans céder à la colère ou au découragement, réfréner l'amertume ou le dépit quand on est attaqué injustement, garder la douceur et l'humilité au milieu des injustices, tout cela est la preuve d'une très grande vertu et d'une force d'âme peu commune. Seule la grâce de Dieu peut opérer un tel miracle dans les âmes des vrais chrétiens. Et ici encore, l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc est éclairant. La victoire de la Sainte Pucelle et sa vertu héroïque éclatent bien plus dans son procès et son martyr, et jusque sur son bûcher, que dans ses triomphes militaires pourtant extraordinaires. C'est à Rouen, plus encore qu'à Orléans, à travers les tortures morales et physiques qu'elle a dû subir, que notre Seigneur l'a conformée à sa propre passion et lui a donné sa plus grande victoire. Seulement, pour en arriver là, la jeune sainte a beaucoup prié. Elle s'est confessée très souvent et elle a communié avec beaucoup de ferveur toutes les fois qu'elle l'a pu au cours de sa courte vie. Et surtout, elle a dû boire jusqu'à la lie l'amer calice du sacrifice et de la persécution. Alors demandons à la Vierge Marie la grâce, nous aussi, de supporter généreusement les persécutions, et cela pour la justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.